I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Maxime Dupuis et je suis ce jour accompagné de Cyril Morin. Alors, on le vous dit tout de suite, vous ne nous reconnaissez peut-être pas à la voix, mais il y a une Coupe du Monde qui est passée par là. On n'a pas été victime de la clim, on a été victime du surmenage. Et en gros, bah, tout le monde est malade, donc on a une voix un peu caverneuse, robotique.
Ouais, comme si on venait de fumer 10 paquets de gitane en l'espace d'une heure.
Et pourtant, on n'est pas des adeptes de la gitane maïs. Mais voilà, donc vous inquiétez pas, enfin, je ne sais pas si vous inquiétez ou pas, mais c'est bien nous. On est bien le 23 décembre, c'est bientôt Noël. On est 5 jours après la plus grande finale de Coupe du Monde de l'histoire. On est en train de digérer un petit peu.
Ouais, c'est dur quand même. Hein.
C'est dur. Voilà. C'est peut-être ça qui nous a fait tomber malade avec le surplus d'émotions, pardon, de dimanche.
Ouais, et puis à un moment la pression elle descend. Y a pas que pour les joueurs, pour nous aussi. Donc voilà, mais oui, c'est dur à digérer, Maxime. Malgré tout, il y a juste peut-être un tout petit truc qui peut nous mettre un peu de baume au cœur. Que Martin soit pas là. Non, mais les images qu'on a vues à Buenos Aires qui rappellent malgré tout que la Coupe du Monde est entre les mains d'un pays qui connaît le football. Voilà, c'est une maigre, très maigre consolation parce qu'en plus, ça s'est accompagné de célébrations pas toujours très classe de la part des joueurs argentins. Mais voilà, bah, c'est le
fait,
seul.
En fait, il faut couper le son. Ouais. Et regarder les images. Alors, pas toutes, mais c'est vrai que notamment l'image du drone à Buenos Aires avec vers l'obélisque, là, c'est complètement dingue. Et voilà, ça dit la supériorité de la Coupe du Monde sur tout le reste. C'est fabuleux. Voilà. On aurait préféré que ce soit au crayon. Alors, au crayon, il y a eu les images à la Concorde. On aurait préféré que ce soit la descente. D'ailleurs, la descente de. Je ne connais pas l'avenue qu'ils ont essayé de descendre.
Nueve de Julio.
Nueve de Julio, donc 9 juillet.
Et absolument.
Ça, je maîtrise. ça rappelait, ils ont dû arrêter. C'est un peu les Bleus de 98 qui doivent remonter jusqu'aux Champs-Élysées et qui sont complètement pris par la marée, qui ne peuvent pas aller plus loin. Donc voilà, ça reste des images historiques. On aurait préféré que ce soit la France, évidemment, mais bon. On va quand même revenir
bien sûr
sur la Coupe du Monde, parce qu'il y a une suite à tout ça. Évidemment, c'est la discussion qui n'a pas été forcément ouverte par Christophe Dugarry dans les colonnes de l'équipe, mais c'est la discussion de la suite à donner à l'équipe de France. Alors, question très simple, est-ce qu'il faut que Deschamps continue ou est-ce qu'il faut le remplacer? Et si on le remplace, évidemment, c'est Zinedine Zidane. Donc, est-ce qu'on va vers Deschamps 2024 ou Zidane 2024? Ce sera le premier sujet de la Stream Team.
Le deuxième sujet, Maxime, on reviendra sur la retraite internationale de Karim Benzema par le biais d'un post Instagram pour le moins énigmatique. On va se poser une question. Est-ce que Karim Benzema n'est finalement pas le plus gros gâchis de l'histoire des Bleus? Il y a plusieurs cas à l'étude. Benzema est plutôt bien placé dans la discussion.
Il est plutôt bien placé. Et troisième sujet, on parlera du Ballon d'Or. Est-ce que le Ballon d'Or est plié depuis le 18 décembre, c'est-à-dire depuis la finale de la Coupe du Monde? Est-ce que, en gros, c'est une course à deux chevaux, Mbappé et Messi? Et est-ce que l'un des deux chevaux, qui s'appelle Messi, n'aurait pas déjà gagné le Ballon d'Or alors qu'on le rappelle, maintenant, c'est sur une saison et non plus une année. On vous rappelle que l'émission est retrouvable partout sur toutes les bonnes et les mauvaises plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, etc. Vous vous abonnez comme d'habitude, vous nous mettez une note, vous nous mettez des commentaires et on tient aussi à vous remercier parce que ce soit sur Tour du Monde que présentait Cyril ou le FC Stream Team pour la Coupe du Monde, bah on a beaucoup de retours très sympas. J'ai l'impression qu'on a un peu élargi notre public, donc ça fait plutôt plaisir. Et on va essayer évidemment de continuer sur un rythme un peu moins soutenu parce que là, les voix, elles vont plus tenir. Mais au moins, on va continuer sur l'année. Et puis,
on a une promesse pour 2023, c'est que Martin Mosnier sera encore plus en forme qu'en 2022.
Ouais, voilà.
Mais pas trop non plus quand même.
Ouais, et qu'il criera encore plus fort dans le micro pour vous casser les oreilles. Voilà. Et d'ailleurs, à la décharge de Martin Mosnier, je me suis rendu compte que. Alors, on réécoute un peu les émissions pour voir ce qu'on a dit, si on n'a pas dit trop de bêtises. Et que sur la finale Coupe du Monde, j'ai l'impression que c'est plutôt moi qui étais assez énervé, qui cassait les oreilles. Donc voilà. Moi, je me réserve pour une fois tous les 4 ans. Mais c'était dimanche dernier.
Eh bien, on va commencer cette émission, Maxime, avec le premier sujet. Qui doit être le sélectionneur de l'équipe de France? En l'état, Didier Deschamps est encore aux manettes. Il va discuter la semaine prochaine avec Noël Le Graët concernant une prolongation. On sait que Didier Deschamps aimerait bien avoir une certaine assurance quant à sa présence à la Coupe du Monde 2026. Noël Le Graët ne l'entend pas forcément de cette oreille-là. Et dans un sens opposé, on a une petite musique qui se met en place sur évidemment la candidature de Zinedine Zidane avec Christophe Dugarry dans les colonnes de l'équipe qui a avoué qu'il aimerait voir du changement à la tête de cette équipe de France. Dugarry qui est historiquement très proche de Zinedine Zidane. Donc on va se poser cette question. Qui doit être le sélectionneur des Bleus, Maxime? Ou autrement dit, faut-il en changer de Didier Deschamps?
Alors déjà, je suis étonné que ce débat n'ait pas existé quasiment l'année dernière, en 2021. Parce que finalement, l'échec de Didier Deschamps, c'est 2021, c'est l'Euro, le 8e de finale. Moi-même, ici ou à Bucarest, avait dit que la règle est simple. S'il y a un échec, normalement, on parle d'un remplacement. Voilà. Parce que c'est comme ça dans l'histoire des Bleus. L'histoire d'une sélection, je trouve que c'est assez sain d'être jugé sur des résultats et sur un moment précis. Et en l'occurrence, s'il y avait un moment où on pouvait juger le bilan des chances sur une compétition, c'était dire il s'est raté à l'Euro avec les champions du monde. Donc, quelle conclusion on en tire? Par le passé, les conclusions avaient été régulièrement, je dis bien régulièrement, de remplacer le sélectionneur. Didier Deschamps est resté, il a gagné la Ligue des Nations, il est allé en finale de la Coupe du Monde et donc il a repris la main sur le groupe. Et ça, je pense que s'il y a quelque chose sur lequel Dugarry notamment ne discutera pas, c'est sur le fait qu'il avait bâti son groupe comme il fallait et qu'il avait réussi. Il manque la victoire, mais n'empêche que champion du monde en titre, aller en finale, ça me paraît quand même un argument. Maintenant, il y a deux choses. Didier Deschamps, a priori, voudrait continuer. Noël Le Graët n'y est pas opposé parce qu'il avait donné une règle. On va jusqu'en demi-finale. Alors, il y en a beaucoup pour dire que oui, mais c'est pas seulement le quantitatif, ça doit être le qualitatif. Oui, sauf que c'est du football de nation et que ce qui compte dans le football de nation, c'est évidemment les résultats. Je vais le redire ici encore une fois, ce qui se passe pendant deux ans, je ne vais pas dire qu'on s'en fout, ça sert à construire, ça sert à trouver les joueurs, mais on voit bien qu'il y a deux phases dans le football de nation, c'est ce qui se passe pendant un mois pendant les compétitions et ce qui se passe pendant 23 mois avant. C'est bien de mettre des 8-0, mettre des 7-0 à tous les petits pays d'Europe qui se malmènent comme ils peuvent, mais n'empêche que ce n'est pas ça qui compte. Sinon, une équipe comme l'Espagne serait la reine des sélections, or ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Et pour conclure cette première partie, parce que sinon je vais être très long, je pense que oui, Didier Deschamps mérite de rester à la tête de sélection. 4 ans, je pense que ce n'est pas une bonne idée de lui donner ce blanc-seing pendant 4 ans. Et d'ailleurs, Noël Le Graët l'a dit dans West France de manière ironique, il dit « Pourquoi pas, je suis comme 2030 ?» Et il a raison. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'on va aller vers un contrat de 2 ans et ne pas faire 4 ans. Parce que la règle est toujours la même. S'il se plantait à l'Euro, là, se rouvrirait le débat sans doute plus qu'en 2021. Et surtout, je pense que la FFF, j'imagine qu'elle est vaccinée par le cas Domenech de 2006-2010, où Domenech repartait pour l'Euro 2008 avec une vision vers 2010 en disant « Non, mais 2008, ça prépare 2010. » Non, ça, c'est une connerie. Il n'y a pas une compétition qui prépare l'autre. La sélection, c'est un temps fort à un moment. On ne construit pas sur la durée en sélection.
Ce qui est assez incroyable, finalement, dans le parcours de Didier Deschamps avec les Bleus, c'est que l'exception, c'est 2021. C'est la seule exception. Il faut encore une fois... Je trouve qu'on a un peu la mémoire courte sur la façon dont ce groupe a été monté, sur le nombre d'absents qu'il y a eu et sur le fait que Didier Deschamps, sa méthodologie, on la connaît, elle reste au fond très risquée, c'est-à-dire qu'on ne juge Didier Deschamps que sur des grands tournois. Tu l'as dit, les matchs, et a priori les prochains matchs en mars, ce sera la même équipe de France, peut-être parfois minimaliste, parfois décevante, mais en étant jugé sur les grands tournois, c'est encore plus risqué sur le fond. Et là, il nous emmène encore en finale de Coupe du Monde. On peut même pas dire que ce n'est pas de son fait, puisque son groupe a été fait avec des joueurs qu'on n'attendait peut-être pas forcément ici. Je pense à Colomboigny, je pense à Marcus Thuram. Il a été fait aussi grâce à du coaching exceptionnel. Sa finale a prouvé que son management, parfois rude, revoyez la sortie d'Olivier Giroud en finale de la Coupe du Monde. Olivier Giroud, qui est un soldat qui l'a amené jusque-là. À ce moment-là, on peut se dire qu'il y a une rupture. Et en fait, la suite des événements lui donne presque raison. Donc au fond, moi, je suis d'accord avec toi, Maxime, et c'est surtout, aucune nation n'allie et le beau jeu et les beaux résultats. Et je pense que tous les amateurs de foot, et même au-delà de ça, préfèrent avoir une équipe de France qui va en finale et qui perd dans ces conditions, plutôt que d'être une équipe d'Angleterre pleine de classe, pleine de talent, pleine d'avenir, mais qui perd ses matchs un petit peu au cordeau, en étant juste une belle équipe, mais pas forcément une équipe qui gagne. Et ça, je pense qu'on a tendance à trop l'oublier et à trop voir ça par le prisme du football de club qu'on a l'habitude de voir au quotidien, où on parle beaucoup tactique, on parle beaucoup toutes ces choses-là qu'on a le temps de mettre en place quand on est un entraîneur de club, mais qu'on n'a pas du tout le temps de mettre en place quand on est sélectionneur. Deschamps, il y a une certitude, il sait monter un groupe pour gagner.
Ouais, c'est ça. Et le projet, en fait, c'est bien beau. Moi, j'avais interviewé l'année dernière le sélectionneur, l'ancien sélectionneur maintenant de l'équipe de Belgique, Roberto Martinez, qui avait une logique tout à fait autre et qui était intéressante. Parce qu'il explique que lui, il a un vivier de joueurs qui n'est pas énorme, alors même s'il y a beaucoup de talent, et qu'en fait, sa mission, parce qu'il était aussi DTN, c'est-à-dire de préparer aussi la suite, c'est-à-dire que les Hazard et compagnie avaient un rôle à jouer pour que la Belgique ne retombe pas dans le creux générationnel qu'elle a connu. Alors, c'est très bien, mais c'est vrai que sur la durée, et c'est pas comparable, parce qu'évidemment, il n'y a pas le même vivier français, mais le truc, c'est que à l'arrivée, ils n'ont rien gagné. Et je le répète, si vous demandez à 99% de la population française qu'est-ce que vous préférez, avoir une équipe qui fait la belle sûr. Pendant deux ans, mais qui se plante en phase finale, ou le contraire, vous direz sans doute que vous préférez cette sélection et l'émotion que vous avez vécue. Après, on peut dire aussi, oui, mais pourquoi pas avoir les deux ? Pourquoi pas avoir les deux ? Parce que c'est quand même assez compliqué. Faut se rappeler aussi, l'équipe de France est constituée de joueurs qui jouent tous dans des très, 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 très grands clubs et qui sont habitués à être très, très, très sollicités. Or, le football international, c'est quoi aujourd'hui ? Regardez la liste des matchs internationaux pendant deux ans. C'est le Kazakhstan, c'est des équipes comme ça. C'est que depuis, on va faire un peu d'histoire, depuis la chute du bloc de l'Est, l'opposition est plus faible. Donc ça ne pousse pas non plus à augmenter le niveau d'intensité et de jeu. Autre chose qui a changé, c'est qu'il n'y a plus de matchs. Plus de matchs, on pourrait dire, il y a plus de raisons de s'améliorer. Non, parce que les joueurs ne peuvent plus rien préparer, il n'y a plus d'entraînement. Avant, les rassemblements étaient un match. Il y avait un match, il y avait une semaine. Une semaine pour préparer un match. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Donc, résultat, les équipes n'ont pas forcément le temps aussi de se préparer. Et donc, ce qui compte, et le juge de paix pour moi, mais ça, c'est mon avis, c'est vraiment la compétition. Maintenant, ça n'empêche pas d'ouvrir le sujet Zidane et de dire, est-ce que Zidane serait mieux ? On va prendre ce qu'a dit Christophe Dugarry dans les colonnes de l'équipe. Ouais. Il explique, il y a une analyse à faire sur le jeu et sur les 80 minutes qui font partie des plus catastrophiques de l'équipe de France sur les 50 dernières années. Un jour de finale de Coupe du Monde, il me semble que ça mérite un débat. Alors, il a raison. En revanche, là où il est un peu manque de crédibilité, c'est-à-dire qu'à un moment de faire des grandes phrases comme ça, les 80 minutes qui font partie des plus catastrophiques des 50 années de l'équipe de France. Alors, il est très gentil, Christophe Dugarry, mais on pourrait lui raviver sa mémoire et lui rappeler qu'il y a peut-être 2-3 matchs dont il a fait partie qui étaient pires que ce qu'on a vu dimanche. Voilà. Parce qu'il faut rappeler que le football, je le redis, c'est un rapport de force et qu'en face, il faut le redire, l'Argentine fait 80 minutes d'une qualité très, très extrême, niveau. De très très haut niveau et qu'elle gagne le match là-dessus sur le rapport de force. Voilà. Donc ça, il faut le rappeler à Christophe Dugarry. Et après, si je suis aussi un peu provocateur, je me dis qu'ok, là il nous vend Zinedine Zidane. Mais Zinedine Zidane, c'est quoi ? C'est un entraîneur qui fait gagner. Oui. C'est un entraîneur qui a gagné 3 Ligues des Champions, ce qui est formidable. Ce qui vaut bien une Coupe du Monde, on va le dire, sur le niveau exploit. Mais est-ce que le Real de Zidane était une équipe qui jouait très bien au football ? Moi, je n'ai pas cette impression-là.
Le Real de Zidane était l'équivalent de l'équipe de France de Didier Deschamps, c'est-à-dire une équipe qui domine dans les deux surfaces. Et de toute façon, ça restera l'alpha et l'oméga du football. Alors, effectivement, on peut encore une fois parler de tactique, de système, d'animation, etc. Mais ce qui compte, le juge de paix, ça restera ça. Et dans les plus grands tournois, ça, c'est encore plus visible. Pour prolonger ce que tu disais, Maxime, il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est qu'on ne peut pas, d'un côté, se dire qu'on est la meilleure nation formatrice au monde à exporter des cracks aux quatre coins de l'Europe, avec un système de formation qui volontairement délaisse un petit peu le côté idéologique, j'ai envie de dire, pour se fonder sur la qualité individuelle. Exactement. En fait, Deschamps, il utilise ce qu'il a à sa disposition, c'est ses armes. Il a des cracks individuels qui font des différences individuelles. Pourquoi se priver de ça ? Et quand vous regardez ce qui se passe en Espagne, qui est un peu le contre-modèle, quand vous avez Pedri et Gavi, c'est des super joueurs aussi. Mais derrière, quand il faut peut-être avoir une prise de décision individuelle, c'est un peu moins le cas. Dernière chose que j'ai envie de mettre en avant pour parler du cas Didier Deschamps, je trouve qu'on oublie aussi très très vite la physionomie des matchs des Bleus pendant cette Coupe du Monde. Je pense notamment au quart et à la demi-finale. Si vous revoyez le quart de finale face à l'Angleterre, les 15 premières minutes, on est clairement dans le ton du match. Mmh. Les Bleus dominent l'Angleterre. Il y a ce but et derrière, évidemment, vous êtes une équipe. Alors, elle était moins dominante défensivement qu'en 2018. Mmh. Malgré tout, c'est une équipe qui a basé son ADN autour de être costaud, concéder peu et savoir bien défendre. À partir du moment où vous menez 1-0, quel est l'intérêt pour l'équipe de France de faire le jeu et d'aller mettre un 3-0 à l'Angleterre ? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, tu l'as dit, c'est un rapport de force. On a décidé de laisser le ballon aussi parce que en quart et en demi-finale, on a été rapidement devant, ce qui n'a pas été le cas en finale. Et c'est là aussi qu'on a pu voir que bah, Deschamps, il avait aussi une autre manière d'agir avec ce coaching.
Ouais, puisque tu as Mbappé. C'est-à-dire, oui, ton arme, aussi. T'as dit, tu parles des individualités. Ton individualité principale est sans doute le meilleur joueur du monde. Et il se trouve que ce type-là, il lui suffit de pas beaucoup de ballons. Alors, évidemment,
et il est encore plus brillant en transition, encore plus dangereux quand vous menez un zéro bloc bas, oui, et que vous le lancez seul en contre.
Ça n'a pas marché contre l'Angleterre. Voilà, le Maroc. Moi, le reproche que je ferais, c'est le Maroc. À un moment, je pense qu'à 1-0, ils doivent continuer à pousser. Voilà, ça peut être réglé plus vite. Et contre l'Angleterre, ça me choque pas, parce qu'encore une fois, on est sur un rapport de force, et rapport de force dit aussi qu'en face, bah, les Anglais, c'est pas des peintres, parce qu'à un moment, ils sont menés, donc ils vont pousser, donc l'équipe de France s'adapte. Alors, on peut le regretter, encore une fois, mais c'est l'ADN, et je dirais même plus que l'ADN de Deschamps, c'est l'ADN de cette équipe, tout simplement. C'est comme ça, et ouvrir le débat, moi je dis oui, parce que c'est normal, après tout, c'est Didier Deschamps, c'est l'équipe de France, ça appartient à tout le monde, ouais. Il est là depuis 10 ans, mais s'il y avait un moment, il fallait l'ouvrir, et peut-être dire, il faut le remplacer. C'est après l'Euro 2021, ce qui aurait été une bêtise, puisqu'on a vu après, il y a eu la Ligue des Nations et la Coupe du Monde. Mais en tout cas, pas maintenant et pas de cette manière-là. Voilà. Il a rempli le job, il est finalisé la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Il a fait des erreurs, il a fait des bonnes choses, comme tout le monde de toute manière. Et Dugarry a raison sur les 80 premières minutes. Mais encore une fois, il faut rappeler qu'en face, il y avait l'équipe d'Argentine. Mais n'empêche que voilà, qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux ? Il l'a changé. Finalement, il a fallu attendre en effet assez longtemps, parce qu'il a fallu aussi remplacer Antoine Griezmann, qui est assez, ouais, ce qui peut paraître paradoxal. Mais voilà, donc je trouve que le débat mérite d'être ouvert, mais remplacer Deschamps maintenant, ce serait stupide, si tant est que lui, évidemment, n'ait pas envie de continuer. Mais a priori, il aurait plutôt envie de continuer et lui redonner ce contrat qui va jusqu'en 2024. Et après 2024, on décide. Comme on l'a toujours fait, ça me paraît assez simple de décider après une grande compétition.
Juste pour terminer là-dessus, Maxime, je me souviens d'une interview que vous aviez réalisée de Didier Deschamps en 2014, où son exemple, c'était Joachim Löw. Voilà, c'est peut-être le risque qui guette Didier Deschamps, c'est de ne pas réussir à se renouveler. L'avantage qu'a Didier Deschamps, c'est qu'il a un réservoir bien, ouais, plus profond que celui de l'Allemagne des dernières années, et que je pense qu'il a une intelligence de situation qui lui permettra de prendre du recul. Si à l'Euro 2024, il y a un échec majeur et il sent que son groupe ne lui répond plus, j'ai du mal à croire qu'il s'entêtera.
J'avais dit ça avant l'Euro 2020, parce que ce n'est pas le genre à s'accrocher.
Ouais, mais peut-être.
Ça lui a donné raison. Ouais. Voilà. Et là, ça ferait deux échecs. Après, qu'est-ce qu'un échec ? Encore une fois, on discutera de Noël Le Graët qui donne un objectif demi-finale. Et oui, je pense que c'est un peu comme la Ligue des Champions. Vous arrivez dans le top 4 quand vous êtes un gros club. Vous pouvez vous dire que vous avez quand même réussi votre saison ou votre compétition, parce que au-delà de ça, ça se joue quand même à peu de choses. Ouais. On l'avait dit aussi ici avec Martin, évidemment, une défaite face au Maroc en demi-finale, c'est pas la même chose que de perdre face au Portugal, voilà, ne serait-ce qu'historiquement. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'on reverra les choses après ça, mais un contrat jusqu'en 2024 me semble plutôt logique. Et je peux comprendre, en revanche, que Zinedine Zidane, oui, ait envie de l'équipe nationale, mais n'empêche que c'est que la règle est comme partout, c'est-à-dire qu'il y a une place qui est prise, tant que ça fonctionne bien. Pourquoi changer pour changer si le principal intéressé n'en a pas envie ou s'il sent qu'il peut apporter quelque chose encore? Ça me paraît un peu discutable.
On va passer au deuxième sujet. Ouais. Maxime, on parlait de 2024, lui, il n'y sera pas. Karim Benzema a annoncé lundi sa retraite internationale, lui qui était revenu en grande pompe en 2021 à l'occasion de l'Euro. Ça s'est fait de manière un peu surprenante, avec un post Instagram un peu cryptique, j'ai envie de dire. Ouais, il est devenu un petit peu adepte du genre ces dernières semaines. Et quoi qu'il arrive, on a une sensation terrible de gâchis concernant la carrière de Karim Benzema en équipe de France, parce qu'il a été absent de cette équipe pendant plus de 6 ans. Mmh. Parce que quand on voit ce qu'il a fait avec le Real Madrid, on se dit que peut-être avec l'équipe de France, il y aurait pu y avoir une autre histoire. Donc on va se poser une question toute simple. Est-ce que Karim Benzema est le plus gros gâchis de l'histoire des Bleus ?
Alors je spoil pas tout de suite. Je pense que c'est alors deuxième ou premier ex aequo, voilà, parce que j'en ai un autre qui vient à l'esprit. Mais une chose est sûre, Karim Benzema, sur les 25 dernières années, fait partie des trois attaquants générationnels que l'équipe de France a eu. Des quatre d'ailleurs, Thierry Henry, Nicolas Anelka, lui et Mbappé. Voilà. Il est le premier en 2008, je dis 2008 parce qu'il joue à l'Euro, et il est en équipe nationale en 2007, mais sur lequel on se dit, ah, lui c'est un talent à part, ouais, c'est un monstre absolu, et vraiment la carrière en club l'a prouvé. Voilà. Et il a prouvé des choses en club, il n'a pas mené sa carrière pareil en club qu'en équipe nationale, en s'accrochant autant, parce qu'à un moment je pense qu'il y a un point commun avec tous les attaquants qu'on va citer globalement à mes yeux, c'est l'orgueil. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un orgueil qui a fait qu'ils ont basculé. Et ça, il a su le mettre de côté en club, comme le font souvent les joueurs, parce que je pense qu'il y a une relation différente. Ouais. Voilà. Le problème avec Benzema, c'est que ça a mal démarré. En 2007, ça va très bien, il marque dès sa première sélection, et ça va correctement, c'est le petit jeune. L'Euro, déjà, il y a quelque chose qui fonctionne moins bien. En 2010, il n'est pas la Coupe du Monde. En 2012, il sort d'une grande saison avec le Real, et on pense qu'il va porter l'équipe de France. Or, il recule beaucoup sur le terrain, et il n'a pas ce côté leadership. Et puis finalement, pour moi, il y a 81 sélections, donc avant sa mise à l'écart en 2015. Et puis, il y a les 16 dernières qui sont vraiment excellentes. Et 7 Euros 2021, évidemment, qui, sur le plan individuel, est sa meilleure compétition. Voilà. Et c'est triste parce que finalement, on a vu qu'individuellement, il était très fort, mais ce n'est pas ce qui rendait l'équipe de France plus forte. Donc moi, j'ai un regret là-dessus. Et évidemment, je pense que Benzema est passé d'une certaine... 97 sélections, ça fait bizarre de dire
ouais,
ça.
Il est
mais ça dit un peu le talent du joueur.
Ouais.
On est passé à côté de Benzema et il est passé aussi à côté de l'équipe de France. Et finalement, il le résume assez bien dans son tweet. C'est le seul truc que je retiens du tweet, c'est quand il dit, je ne sais plus ce qu'il dit, mais il parle de ses erreurs.
Ouais.
Voilà, il reconnaît que bah, ça n'a pas fonctionné comme il fallait. Et évidemment, c'est un immense gâchis.
Ouais, moi, je suis d'accord, Maxime. Pour moi, Karim Benzema, il n'y a même pas de débat. C'est le plus gros gâchis parce qu'il y a une trop grande différence entre ce qu'il a fait avec le Real Madrid et ce qu'il a gagné avec le Real Madrid et ce qu'il a fait avec l'équipe de France et ce qu'il a gagné avec l'équipe de France. Et le gâchis, il est d'autant plus grand que il y a eu un peu cette théorie du quand il arrivait en équipe de France, il arrivait à un moment de l'équipe de France où c'était quand même pas jojo, c'est vrai, 2010 c'est quand même pas incroyable, et en fait il rate de 2016 à 2021 l'âge d'or un petit peu de cette équipe de France. Il rate les plus grands tournois où il aurait dû avoir un rôle très important. L'Euro 2016, si il est en position d'être sélectionné et si avec Didier Deschamps ça s'était mieux passé, il aurait été titulaire avec les Bleus. Donc oui, je sais qu'on va parler après de Nicolas Anelka, voire de Eric Cantona, mais pour moi, Anelka, c'est sa carrière dans son ensemble qui est un gâchis. Cantona, c'est des histoires encore un petit peu particulières où on est peut-être passé à côté d'un joueur très important de l'histoire des Bleus, mais Benzema, il coche toutes les cases du plus gros gâchis parce que talent individuel incroyable, et vraie différence entre ses performances en club et ses performances en sélection, accompagnées d'une sélection qui joue et qui gagne mieux sans lui.
Et l'injustice avec Benzema, je le répète, c'est tout le malentendu qu'il y a autour de lui, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et vous demandez dans la rue si Benzema était à Naïsna, les gens qui connaissent de loin diront « Ah bah oui, t'es à Naïsna ». Voilà, il y a eu aussi cette image un peu brouillée. Il a aussi participé à la brouiller, d'une certaine manière, mais à un moment, on lui a fait payer beaucoup de choses aussi qui n'étaient pas forcément méritées. Donc voilà. Moi, je mets en deux, mais un bis quand même, Nicolas Anelka. Alors, t'as raison sur la carrière en club, qui est évidemment pas au niveau du talent du joueur.
Ouais.
Lui aussi, il a un orgueil, mais lui, l'orgueil, il l'a même poussé dans ses clubs. Mais moi, j'ai quand même souvenir de Nicolas Anelka qui arrive à 18 ans, 17 ans même au PSG, puis Arsenal et en équipe de France. Et là, on se dit que le fameux match de Wembley, l'équipe de France qui gagne pour la première fois en Angleterre en 99, on a Ronaldo. C'est-à-dire qu'on a Ronaldo le Brésilien. C'est-à-dire qu'on a un type qui est encore plus fort. Et en plus, on venait d'avoir Thierry Henry et Trezeguet. On a un type qui est plus fort que... Alors évidemment, ce n'est pas le même style que Trezeguet, mais au moins dans le style d'Henry. Et qui, à ce moment-là, est, à mes yeux, en effet, beaucoup plus fort qu'Henri, qui était déjà très, 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 très fort. Le problème d'Anelka, c'est que Henri a eu, on va dire, du plomb dans la tête d'une certaine manière, comme Mbappé aujourd'hui.
Ouais.
Moi, Anelka, ça me fait penser à Mbappé, à côté de qui on passerait à côté. Voilà. Que le gars, on se dit, ah, il est en train de déconner un peu. Et moi, ça reste un immense regret, parce que ce type-là, à 69 sélections, il a mis que 14 buts. Il a joué une seule Coupe du Monde, on s'en souvient comment elle s'est passée. Il joue l'Euro, il le gagne, mais il ne marque pas. Il a un rôle, on va dire, primaire, secondaire pendant cet Euro un peu bizarre. Et vraiment, moi, j'ai vraiment ce regret sur le joueur qu'il aurait pu être, parce que je pense que ce type-là pouvait mener l'attaque de l'équipe de France pendant 10 ans. Alors, il y a eu des relations bizarres avec ses sélectionneurs, avec Jacques Santini, auquel il avait demandé quand même de s'agenouiller avant de revenir en sélection, ce qui est une chose qui ne se fait pas avec un sélectionneur, et même en général, de toute manière. Donc voilà, il a été perdu par son orgueil. Donc c'est un immense regret aussi, Nicolas Anelka.
La caractéristique entre le cas Anelka et le cas Benzema, pour moi, c'est qu'à un moment, ces joueurs-là, ils ne s'appartenaient plus. Leur cas ne leur appartenait plus. Et c'est devenu des sujets aussi sociétaux, presque.
Ouais.
Et le cas Benzema, c'est exactement ça. Il faut se souvenir de la période 2015-2016 où il y a même Manuel Valls qui s'en mêle. Voilà, c'est des joueurs qui ont dépassé un cadre, qui incarnaient des crispations peut-être françaises et qui fatalement ont vu leur relation avec leur sélection, mais aussi presque avec leur pays, qui s'est complètement dégradé. Et ça ne m'étonnerait pas que Karim Benzema décide de rester vivre en Espagne pour son après-carrière ou de ne pas choisir la France en tout cas, parce que il y a quelque chose d'aussi un peu néfaste autour de cette surattention et de cette crispation. Ouais. En fait, il cristallise ces deux-là. Quelque chose, comme d'autres, hein, y en a eu d'autres aussi dans le lot, qui n'est pas uniquement du terrain, et ça c'est un gros regret pour moi.
Alors il n'a pas donné de grain à moudre en revanche à ceux qui lui en voulaient, parce qu'il payait ses impôts en France.
Exactement.
Donc au moins il avait ça, et c'était très compliqué pour eux, ça devait les embêter de ne pas pouvoir récupérer ça. Voilà. Dans la liste on a mis aussi, alors là on est un cran en dessous, Eric Cantona évidemment, parce qu'Eric Cantona c'est... le joueur symbole de la Première Ligue, c'est 45 sélections équipe de France, 20 buts. Alors Cantona... Je pense que l'équipe de France n'est pas passée à côté pour deux raisons. C'est Cantona, lui, il n'a pas de peau, il arrive dans un creux générationnel. Platini, sélectionneur, il dit à l'époque, toujours, j'ai deux grands joueurs et 9 joueurs moyens. J'ai Papin Cantona en attaque, qui est une attaque de classe mondiale, évidemment. Cette équipe, prenez cette attaque en 86, je pense que c'est pas mal. Prenez même cette attaque pour 98, c'est pas mal. Alors pourquoi il y a cette relation contrariée avec l'équipe de France? Alors évidemment, il y a Henri Michel et sa camerde, mais ça vient tôt. Donc j'ai envie de dire que c'est notre histoire. Mais c'est tout simplement que Cantona s'est aussi mis des bâtons dans les roues. Il faut quand même rappeler que Jacquet n'a pas décidé de se passer de lui de manière évidente. C'est-à-dire que Cantona, c'est son capitaine au début. Il le met capitaine avec les jeunes. Sauf que Cantona va mettre ce coup de pied aux supporters de Crystal Palace, va être suspendu 8 mois. Et quand il revient, Jacquet se rend compte qu'il a quelque chose avec Djorkaeff et Zidane. Et donc, quand il demande à Cantona, est-ce que tu veux revenir? Oui, mais c'est pour jouer avant-centre. Bah, Cantona, il relève le col. Il dit non, moi, je ne joue pas avant-centre. Je suis Eric Cantona. Je n'ai pas envie de jouer avant-centre. On se serait peut-être très bien porté avec Cantona avant-centre à la Coupe du Monde, voire même à l'Euro 96. Sauf que voilà, il y avait son caractère aussi qui aurait peut-être été un peu écrasant pour une personnalité comme Zidane. Donc voilà, je suis pas sûr qu'on soit passé à côté. C'est juste un mauvais timing à mon avis, Cantona.
Ouais, on est d'accord. Ce qui est marrant, c'est que la perception post-carrière d'Eric Cantona, elle est bien plus positive que Karim Benzema ou Nicolas Anelka. Alors qu'en termes de coup d'éclat, on est pas mal.
Alors oui, parce qu'il y a un sac à merde. Alors il n'a pas dit sac à merde directement, mais comme Anelka n'a pas dit les propos exacts qu'on lui a prêtés, c'est une insulte. Il avait dit quand même, il faut toujours leur dire, Cantona, il avait dit, je suis pas loin de penser ce que dit Mickey Rourke au sujet des patrons des Oscars. Voilà. Mais il ne traite pas directement Henri Michel de sac à merde, même si bon, on joue sur les mots là. Et on en a mis un petit dernier quand même, parce que ça va peut-être vous paraître bizarre, c'est David Trezeguet.
Ouais. Oui, parce que 34 buts en équipe de France, fantastique buteur racé, mais l'impression que il n'y a jamais pu y avoir ce duo avec Thierry Henry, et c'est Thierry Henry qui a gagné ce combat-là, haut la main évidemment. Donc Trezeguet, il aurait pu en mettre une bonne palanquée des buts, parce que si vous regardez son ratio sélection-but, c'est un des meilleurs de l'histoire de l'équipe de France, mais on l'a pas assez vu quoi.
Bah, quand il arrive à 34 buts et 71 sélections, on dit c'est lui qui va être meilleur buteur de l'histoire des Bleus, sauf qu'avec Domenech ça se passe pas bien. Et souvenez-vous, si vous n'avez jamais vu cette séquence là qui est incroyable, je crois que c'est dans l'émission L'équipe du dimanche de Canal+, où il reçoit un journaliste à Turin et il fait carrément du tableau noir pour expliquer à Domenech comment il pourrait jouer avec Henry. Donc ça passe moyen. Et voilà, on est passé à côté parce qu'il y avait Henry, parce qu'à un moment il y a eu Anelka. Alors il y a ce but en finale de l'Euro, mais il faut rappeler que c'est un Euro très, très, très douloureux pour lui. C'est le troisième homme. Il ne joue pas, il ne le vit pas très bien. Et finalement, il est presque anachronique, cet attaquant-là, parce qu'on est déjà dans l'ère des attaquants Henry, Anelka, des types qui vont vite. Et j'y pensais en t'entendant parler. Je me dis, mais est-ce que finalement, Trezeguet n'aurait pas eu plus sa place aujourd'hui en avançant d'une équipe de Deschamps?
Potentiellement, ouais. Il y a quelque chose qui le rapproche un petit peu de Giroud, paradoxalement, mais... C'est une bonne question, Maxime. C'est une bonne question.
Voilà, mais c'est vraiment un cas à part. Celui, c'est pas l'orgueil qui l'a, j'allais dire, il lui a fait du mal. C'est, je pense, un anachronisme d'avoir des attaquants qui étaient plus forts que lui et beaucoup plus spectaculaires. On ne regrettera évidemment pas d'avoir eu Thierry Henry pendant 12 ans en équipe de France.
Pas du tout. Et bon, on va terminer cette émission. Ouais. Maxime, en
avec
parlant...
un joueur qu'on pourrait avoir aussi 12 ans en équipe de France.
Oui, bon, on l'espère en tout cas. C'est Kylian Mbappé, puisqu'on va parler du Ballon d'Or. Est-ce que le Ballon d'Or 2023 est déjà joué au 23 décembre 2022? C'est la question qu'on va se poser. Bon, ce n'est pas un secret de Polichinelle. Les deux grands favoris, et il devrait le rester au moins jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, c'est Lionel Messi et c'est Kylian Mbappé. Est-ce qu'il y a une chance de voir Mbappé, finalement, si on fait le compte dans ce mois de décembre, Messi est devant parce qu'il réalise une très grande finale, lui aussi, et parce qu'il a le plus beau trophée possible, et parce que c'est Lionel Messi aussi. Est-ce que Kylian Mbappé a une chance d'inverser la tendance sur les mois qui viennent?
Alors, c'est pas moi qui vais me plaindre que le joueur gagnant de la Coupe du Monde et qui fait une immense Coupe du Monde soit potentiellement Ballon d'Or. Parce que pour moi, ça reste le plus beau trophée. Encore une fois, rappelez-vous des émotions de dimanche. Ça reste, c'est un 100 mètres olympique. C'est-à-dire que ça couronne vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je pense que oui, il est joué le Ballon d'Or. Alors, ça fait bizarre de dire ça, alors que le Ballon d'Or est sur la saison maintenant, qui reste 6 mois. Et les 6 mois plus importants, c'est pas exactement comme avant, quand le Ballon d'Or était sur l'année civile, ouais. Même année de Coupe du Monde, où les 3 mois qui venaient après étaient moins importants. Mais n'empêche qu'il y a deux choses qui me font dire ça. C'est ce que je viens de dire avant sur le Ballon d'Or, sur la portée d'une victoire en Coupe du Monde, et simplement sur l'aura de Lionel Messi. Il en a gagné 7, dont 3 qui, à mon avis, sont discutables, pouvaient être gagnés pour d'autres. Je vais revenir sur le Ballon d'Or qu'il gagne versus Lewandowski. On s'est suffisamment étrié ici avec Martin notamment pour moi dire que Lewandowski le méritait, que Messi ne méritait pas le Ballon d'Or cette année-là alors qu'il avait gagné la Copa América. Donc là, je ne vois pas comment, même si ça a changé, même si le scrutin est réduit sur les 100 premiers, là, ça sent quand même le Ballon d'Or pour l'année et pour la carrière et pour marquer le coup. Et ce serait peut-être injuste. Alors, que devrait faire Mbappé pour le gagner? Marquer, peut-être faire une saison de Ligue des Champions, ouais, à la Benzema et le gagner en finale. Mais même ça, ça me paraît juste parce que Messi est dans son équipe.
Ouais, en fait, c'est la double peine pour Mbappé. C'est-à-dire qu'il a été frustré par un coéquipier en finale de la Coupe du Monde. Et même s'il venait à réaliser une prestation exceptionnelle et un tournoi exceptionnel en Ligue des Champions, il y aura toujours Lionel Messi quelque part. Sauf à ce que Lionel Messi se blesse gravement et on ne lui souhaite pas dans les mois qui viennent. Mais a priori, si Mbappé brille, ça veut aussi dire que quelque part, Messi aura brillé. Donc moi, je vois mal... Il a un argument massu avec ce triplé en finale de Coupe du Monde et peut-être que l'écart ne sera pas aussi important qu'on pourrait le penser. Et peut-être que voilà, si au printemps il prend feu et qu'il porte littéralement le Paris Saint-Germain et que Lionel Messi est méconnaissable, peut-être que, mais j'ai quand même un gros doute, et c'est ce que tu as dit, le fait que ce soit Messi le concurrent et non pas Luka Modric.
Oui, c'est ça.
Ça pèse beaucoup trop lourd. Voilà, je pense que ça pèse trop lourd.
Et ouais, enfin, ce qui est compliqué, c'est que, ouais, à part un printemps benzémesque en Ligue des Champions où il aurait planté 13-14 buts en phase éliminatoire, où là vraiment il roule sur tout le monde. Et encore, la question, ça aurait été marrant que le Ballon d'Or soit toujours sur l'ancienne règle donnée après la Coupe du Monde, par exemple.
Ouais.
Et je me demande si Benzema l'aurait eu. Vraiment.
Je pense pas.
Voilà. Donc si Benzema l'a pas avec une saison telle qu'il a faite. Et que Messi là, alors que finalement c'est l'histoire, pas que d'une Coupe du Monde, mais globalement, je vois pas trop comment. Et il y a, alors, sans aller jusqu'à la blessure grave qu'on lui souhaite évidemment pas, on peut imaginer aussi le Messi qui relâche complètement la pression et qui ne marque que 3 buts, imaginons, en deuxième partie de la saison. Bah oui, mais ça s'appelle le Messi du PSG en 2021, qui a eu quand même le Ballon d'Or. Donc vraiment, je pense que le Ballon d'Or est déjà attribué, quasiment le gravé. Ce ne sera pas immérité, je le répète, parce que la Coupe du Monde et parce que ce que je dis tous les jours, donc je ne vais pas me contredire ici. Mais n'empêche que, comme tu l'as dit très bien, pour Mbappé, c'est vraiment la double peine.
Peut-être que le meilleur espoir pour Mbappé réside en lui-même, c'est-à-dire qu'il est quand même déjà revenu à l'entraînement 5 jours seulement après cette défaite en finale et que vous pouvez être sûr qu'il va tout faire pour gommer un maximum l'écart qu'il sépare de Lionel Messi. Il faut peut-être s'attendre à une deuxième partie de saison complètement folle de Kylian Mbappé. On verra.
Un petit 45 buts en Ligue 1 et un petit 22 buts en Ligue des Champions pourrait quand même laisser imaginer qu'il y a match. Mais sinon, voilà, il y a l'aura. Encore une fois, l'aura de Lionel Messi, c'est pas. Je le redis, hein, le Ballon d'Or 2021, à partir du moment où on lui donne, avec juste, entre guillemets, une Copa América réussie, me dit que il a a priori un 8e ballon d'or dans la poche et que malheureusement pour Mbappé, il faudra peut-être attendre encore 2023.
Et ben voilà, nous on va pas attendre 2023 pour vous souhaiter de bonnes fêtes, pour vous remercier de votre fidélité aux émissions d'Eurosport et au FC Stream Team en particulier. Maxime, on se retrouvera à la rentrée. D'ici là, on fait attention quand même pendant les fêtes parce que dans la rédaction, on a une petite tendance à se faire très plaisir sur cette période de l'année. Martin, si tu nous écoutes, pourra aussi en témoigner.
Je sais qu'il a commencé les huîtres autour du 21.
Il était en roue libre à partir du moment où.
Déjà que je le sentais déjà en roue libre sur la pente descendante vers la fin de la Coupe du Monde au niveau culinaire. Là, je pense que ça s'est pas arrangé. Là, ce qu'il va falloir faire, là déjà, c'est 1. Aller boire du sirop.
C'est vrai.
Parce que là, ça commence à être très dur, l'émission. Je ne sais pas depuis combien de temps on parle, mais j'ai l'impression que ça dure 8 heures. Et aller se sustenter quand même.
Tout à fait. C'est le principal.
Voilà.
Le
on vous donne rendez-vous à la rentrée. Donc, pas d'émission la semaine prochaine, il me semble. Mais la semaine suivante. Et puis, vous aurez quand même mercredi Mercato qui reviendra aussi. On fait une coupure émission pendant une semaine, histoire de se reposer. Parce que la Coupe du Monde a été quand même assez monstrueuse. Et en plus, j'ai entendu le dernier Mercato Quiz. Neil Maupay, les gars, quand même. Neil Maupay, à un moment... Je sentais qu'il y avait de la fatigue.
Ouais. Donc on recharge les batteries, on se retrouve tous en 2023. Merci beaucoup, à bientôt.
Et attends. Ah. Bon, merci Seb.
Ah oui, bien sûr.
Manettes.
Ouais.
D'habitude, c'est la partie de Martin, ça. Oui, mais je me souviens. Seb aux manettes et Marco au visuel. Voilà, MC Seb Petit et MC Marco Popovic. Merci à tous. Joyeuses fêtes, joyeux Noël, joyeux tout ce que vous voulez. Plein de cadeaux. Je voudrais bien vous faire une Coupe du Monde, mais ça, j'en ai pas les moyens. Donc, à la rentrée. Salut.
Salut.